Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. 900, c'est le nombre d'attaques contre les entreprises françaises que le ministère français de l'économie aura traitées d'ici la fin de l'année, soit trois fois plus qu'en 2018. Pour en parler, je reçois Geoffrey Célestin-Urbain, chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique au ministère de l'économie, plus connu sous l'acronyme CICE. Bonjour Geoffrey Célestin-Urbain.
Bonjour.
Augmentation donc des menaces, c'est ce que vous constatez depuis un certain nombre d'années.
Absolument, oui. On constate une intensification très très forte de la menace étrangère sur les actifs stratégiques de l'économie française, c'est-à-dire des entreprises stratégiques, des technologies et puis des laboratoires de recherche, parce que c'est aussi un secteur que l'on couvre parce qu'il est très très ciblé par nos concurrents étrangers.
On constate parce que sans doute à Bercy, on s'est mieux organisé depuis un certain nombre d'années en créant notamment votre service.
Absolument. Alors le service existe depuis 2016, mais c'est à partir vraiment de 2018-2019 qu'on a commencé à voir mieux, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de myopie sur notre capacité à détecter des menaces. Et depuis 2019-2020, en fait, on a mis en place une plateforme à Bercy qui nous permet de collecter tout un tas d'informations stratégiques au moment où l'on parle. D'ailleurs, il y a plein d'informations de signalement qui arrivent au service et qui nous permettent de caractériser des menaces sur des actifs stratégiques. Et en fait, pour chaque information stratégique, on est chargé de déterminer si c'est une alerte de sécurité économique. Donc là, on rentre dans les 900 que vous avez évoqués. Et si ce n'est pas une alerte, eh ben, on laisse de côté et on considère que ce n'est pas problématique pour la souveraineté économique de la France.
Prise de conscience à partir de 2016, parce que prise de conscience sur la réalité de la guerre économique.
Oui, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on peut précisément dater les choses. Le rapport Martre date de 1994, donc il y a un long historique. Je dirais qu'à partir de 2018, on a pris conscience que dans le contexte géostratégique qui était en train de changer, projection géostratégique complètement assumée de la Chine, réveil vraiment des États-Unis avec le premier mandat Trump, que l'Europe ne pouvait pas rester durablement à la traîne. Et il fallait qu'au niveau français, en tous les cas, avec notre tradition de colbertisme et de sensibilité à ces sujets de souveraineté, il fallait qu'on hausse le niveau de jeu, pour prendre une analogie avec le sport. Et donc, au-delà de cette révolution géostratégique qui a eu lieu depuis plusieurs années, il y a une révolution plus discrète au sein de l'appareil d'État qui a consisté à mettre tout ça en place. C'est la plateforme de détection et de traitement des menaces.
On va revenir sur les moyens. Sur le constat, quelles sont ces menaces? De quel type?
Alors les menaces sont vraiment très très variées. On a identifié à peu près une trentaine de modus operandi différents mais récurrents. Alors ce qu'on voit, c'est deux grands blocs de menaces étrangères. 45% des menaces répertoriées, c'est du capitalistique, c'est-à-dire prise de contrôle d'entreprises stratégiques. Déloyales
ou pas,
en fait. Ça peut être aussi des opérations totalement légales et dites loyales, des OPA, donc dans le droit boursier complètement conforme, mais simplement qui consiste ensuite à récupérer une entreprise stratégique et ensuite à transférer son siège social, à récupérer la technologie, etc. Donc ça, c'est 45%, le bloc capitalistique. Et le deuxième gros bloc, c'est tout ce qui concerne de la prédation sur de la propriété intellectuelle des entreprises, notamment du secret des affaires. Là encore, du légal et de l'illégal. On navigue en permanence entre les deux. Et tout ce qui concerne captation de données sensibles des entreprises. Donc on a ces deux grands blocs de menaces. Et en termes de typologie sectorielle, en fait, le secteur le plus exposé, c'est les transports, avec 16% des menaces identifiées. On a ensuite un gros secteur recherche, enseignement supérieur, 15%, avec notamment les labos. Et ensuite, on a 13% sur le numérique et l'électronique, donc à la fois le hardware, semi-conducteur et autres, et puis le software, intelligence artificielle quantique. Et ensuite, nous avons la santé qui arrive juste derrière à 11%, dont les biotech, et l'énergie à 9%. Donc on voit une répartition sectorielle assez, assez large finalement.
Pour qu'on comprenne bien, vous défendez les entreprises implantées sur le sol français ou les entreprises françaises?
Alors, on défend les entreprises françaises qui sont stratégiques pour la souveraineté.
D'accord.
Donc c'est encore une autre catégorie. Oui. On a bâti une catégorie qui n'existait pas auparavant. Vous savez, jusqu'à 2016, il y avait d'autres dispositifs qui permettaient de protéger des entreprises importantes pour la souveraineté, comme le dispositif des opérateurs d'importance vitale, un opérateur dont la perturbation du système d'information pourrait conduire à une discontinuité dans la vie économique de la nation. Nous, on a inventé quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire une nouvelle catégorie d'entreprise stratégique pour la souveraineté économique et qui nous permet de brasser beaucoup plus large
on a vu
que des secteurs. Avant, c'était très défense, des choses très directement reliées à la sécurité publique, à l'ordre public. Et depuis, on a beaucoup, beaucoup élargi. Et ça, même avant la crise Covid et même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Donc on comprend les types de menaces. Et forcément, la question, c'est qui menace les entreprises stratégiques?
Alors là, je ne peux pas tout dire. Là, on arrive en zone...
Mais ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a deux pays.
Alors, il y a effectivement...
Moi, je peux les dire, États-Unis et Chine.
C'est vous qui l'avez dit. Donc, Alors, la menace n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'on peut imaginer n'importe quel émetteur de menace.
Et ça peut être un allié, ce que...
Ce que je peux vous dire, la formule un peu consacrée, c'est que la carte de la guerre économique ne se superpose pas avec la carte des alliances militaires et des alliances stratégiques.
C'est clair.
Donc on a un espèce de mix, effectivement. Et nous, on va effectivement essayer de caractériser pour chaque signalement si l'investisseur ou l'acteur étranger est problématique ou pas. Mmh. Et pour ça, on regarde un ensemble de choses. On regarde notamment quel est son historique d'investissement en France. Est-ce qu'il a fait des promesses d'investissement qu'il n'a pas tenues? Est-ce qu'il a un historique de prédateur? C'est-à-dire, j'investis dans une boîte française, je pompe la technologie et je vais construire une usine miroir dans un autre pays. Donc on regarde tout ce faisceau d'indices qui nous permet de caractériser... Pour chaque signalement, est-ce qu'on est en présence d'un acteur qui est problématique ou qui n'est pas problématique pour la souveraineté? Ça nous permet d'avoir une approche proportionnée et sélective du risque.
Comparé aux États-Unis, quand je vois les chiffres, 325 demandes de rachat d'entreprises stratégiques françaises et vous avez accordé 131 rachats. Donc c'est plutôt un pays encore très ouvert, la France. Aux États-Unis, on n'aurait pas ces chiffres-là. Hein.
Alors, c'est à nuancer parce que ce 325, c'est le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France, qui nous permet en fait de contrer une partie de la menace capitalistique en cas de prise de contrôle d'une entreprise dans des secteurs stratégiques. 325, c'est le nombre total de dossiers de demande d'autorisation, donc pas uniquement les États-Unis. Et la France, en fait, se caractérise au niveau européen par un dispositif qui est vraiment proportionné avec un taux d'engagement, c'est-à-dire un nombre de dossiers où on demande des conditions, des garde-fous pour la souveraineté, qui est relativement plus élevé que dans d'autres pays européens. Donc je dirais qu'on a un dispositif qui ne peut pas être qualifié de permissif, qui est un dispositif qui est robuste de contrôle des investissements étrangers en France.
Quels moyens aussi c'est donc dans votre service?
Eh ben en fait, moyens humains déjà, beaucoup d'énergie et beaucoup de, donc j'allais dire beaucoup de collaborateurs. La menace a été multipliée par, pratiquement par deux ou par trois ces dernières années. Les effectifs n'ont pas été multipliés par deux ou par trois. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réorganisé complètement le service pour qu'ils soient en mesure, par des gains de productivité, d'absorber toute cette charge. Donc on a mis en place tout un tas de process qui nous permet d'optimiser le traitement de l'information. Mmh. Et donc, effectivement, tous mes collaborateurs sont très, très chargés, on va dire, et ils se répartissent le traitement de ces à peu près 900 menaces par an. Mmh. Donc on a une trentaine de collaborateurs à Paris, et puis on a une vingtaine de collaborateurs qui sont des collaborateurs de proximité, qui sont dans les régions, auprès de chaque préfet de région, et qui nous remontent des signalements de proximité qu'on n'aurait pas eu par d'autres canaux.
Bon, c'est plutôt un succès, le CICE, et on le voit à travers le fait qu'un certain nombre d'acteurs souhaitent que le CICE ne soit plus seulement à Bercy, au ministère de l'Économie, mais en interministériel auprès du Premier ministre.
Alors, un joker sur l'évolution institutionnelle, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le dispositif depuis 2018-2019 au sein de la DGE, la Direction Générale des Entreprises à Bercy, a pris une portée, une ampleur systémique qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Et donc, je dirais que là où on est logé à Bercy, aujourd'hui, on arrive à délivrer des résultats qui sont extrêmement tangibles et qui nous permettent d'avoir un système de défense et de contre-prédation économique. Et j'insiste sur le mot système. Auparavant, ce n'était pas vraiment un système institutionnel, opérationnel. Là, on est en capacité de suivre chacune des menaces, de détecter à temps et de rendre compte des résultats que l'on obtient en termes de neutralisation de la menace. Tout ça n'était pas possible auparavant. On n'aurait pas pu discuter de chiffres aujourd'hui, il y a quelques années. Mmh. Donc en soi, c'est un progrès et la nécessité d'une évolution institutionnelle, moi, aujourd'hui, je ne la vois pas.
Il y a des homologues en Europe du CICE.
Alors, pas que je sache. Je ne sais pas, je ne veux pas mettre ma main au feu en disant qu'on est vraiment les seuls, mais on n'a pas fait une comparaison internationale détaillée là-dessus. Mais à ma connaissance, dans les relations qu'on peut avoir avec nos partenaires européens, il n'y a pas de structure équivalente. Et justement, le modèle français, avec de l'humilité, mais en tous les cas, la singularité française intéresse beaucoup. Ah. Il y a de plus en plus de pays européens qui viennent nous voir.
À Bruxelles, ils sont moins méfiants.
Ils sont moins méfiants à Bruxelles, c'est clair. Ouais. Ils sont moins méfiants dans d'autres pays européens. Ils comprennent que la sécurité économique, c'est une nécessité, y compris dans des pays de tradition très libérale. Et donc, on a de plus en plus de démarchages, on va dire, de partenaires européens et également asiatiques qui s'intéressent au modèle français et qui s'intéressent notamment à cette dimension interministérielle, c'est-à-dire très transversale qu'on a mise en place. On ne surveille pas uniquement les boîtes de défense, on surveille tout un spectre très large de secteurs et de technologies en partage d'informations avec d'autres administrations, qui est un cas unique à ma connaissance, en tous les cas, dans les pays européens et dans une bonne partie des pays occidentaux. Je mets de côté États-Unis qui sont organisés de manière différente, et Chine où c'est systémique.
Et du coup, vous avez des interlocuteurs à Bruxelles ou pas ?
Oui, on commence à avoir des interlocuteurs parce que la Commission européenne a commencé à se muscler, à tout un tas de chantiers en cours sur l'harmonisation des dispositifs de contrôle des investissements étrangers en Europe, sur le contrôle des investissements sortants aussi, donc pour éviter des transferts de technologies à travers des joint ventures qu'on peut avoir à l'étranger. Donc la Commission commence vraiment à, non plus seulement à se sensibiliser, mais à mettre en place des structures, des études et des initiatives législatives, et c'est une bonne chose.
Merci beaucoup pour vos réponses, Geoffrey Célestin Urbain.
Merci beaucoup.
Olivier. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.